Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Venose fattissimo. Come fattissimo.
Curieux, amateurs, amoureux du cinéma d'Ardèche et de l'univers, bienvenue, vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va parler des films « Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras, « Saul aveugle, femme endormie » de Pierre Foldès, « Le piège de Houda » de Annie Abou-Assad, « Émilie » de Frances O'Connor, « In viaggio » de Gianfranco Rossi, et Cria Cuervos de Carlos Saura, en compagnie de Cathy, René et Didier. Bonjour.
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 Bon, il y a toutes. Et en compagnie de Sylvain aussi.
Bonjour.
À la réalisation. Bonjour Sylvain. Alors, version classique aujourd'hui, tout entière retournée vers la critique des films que l'on peut voir sur les écrans d'Ardèche, avec quand même, évidemment, en fin d'émission, un petit point agenda, mais on passe tout de suite à la critique des films.
Photography is like a flash of euphoria and gave me a voice. Once I started sharing the work, it was really heavy resistance. Especially from male artists and gallerists who said this isn't photography. Nobody photographs their own life. Dance,
dance, dance. The photographer Nan Goldin, she's a major name in the art world.
The work was incredibly political. It was about power, and particularly about the power that men have over women.
100,000 dead! 100,000 dead!
There's the Sackler family of the art world, the museum world, and then there's the big pharma marketing and addiction and death.
My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious.
We need to demand that the Met Museum, the Louvre, the Tate refuse donations from the Sacklers and take down their name.
The rich people are scared that we're going to dig into the evil way they made money. The wrong things are kept secret in this society. And that destroys people.
Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras, avec la voix éraillée de Nan Goldin qu'on entend pendant toute la bande-annonce, qui a eu le Lion d'Or au Festival de Venise en 2022. Laura Poitras qui avait fait Citizen Four sur Edward Snowden. Ça donne très 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 envie. Mm-hmm. Ce documentaire sur Nan Goldin,
oui.
René.
Oui, oui, par Laura Poitras, qui fait des films très engagés, en règle générale. Et là, elle nous livre un film qu'on pourrait qualifier de kaléidoscopique, dans la mesure où s'y succèdent, s'y entrecroisent différents aspects, différentes approches, différentes facettes. Alors bon, il y a la dimension, d'abord cette dimension biographique du film qui retrace la vie et la carrière de Nan Goldin, une photographe reconnue. Et ce n'est pas le côté le moins intéressant du film, tant cette femme a une personnalité intéressante, forte. On l'entend dans sa voix d'ailleurs. On entend deux choses dans sa voix. On entend sa personnalité et le fait qu'elle doit fumer 3 paquets de cigarettes par jour. On a rarement vu quelqu'un qui se dévoile avec un tel souci de vérité, d'authenticité, quelqu'un qui ne s'épargne pas, quelqu'un d'écorché vif.
Ce qui lui a été reproché d'ailleurs.
Ce qui a été peut-être reproché.
De se mettre à son... Pardon.
À nu, au sens physique, au sens propre et au figuré. L'année de sens. Il y a aussi le côté documentaire. sur le travail donc d'une artiste, puisque le film est essentiellement composé d'une alternance de photos prises par Nan Goldin tout au long des années, et de scènes qui nous la présentent dans son action militante, entourée de ses camarades de lutte. En effet, ce film est aussi un véritable manifeste politique. Nan Goldin et d'autres ont créé un mouvement qu'ils ont intitulé Pain. Pain en anglais, c'est la douleur, mais bon, là, c'est chaque lettre correspond à un mot, et qui s'est attaché à dénoncer et à faire comparaître en justice la grande entreprise pharmaceutique Purdue, propriété de la famille Sackler. Cette compagnie qui produit des opioïdes comme le fentanyl a causé la mort de quelque 500 000 personnes aux États-Unis. En effet, le fentanyl est un médicament qui a été longtemps prescrit par les médecins et qui entraîne une accoutumance. Je cite l'exemple d'une des femmes qui milite contre ça dans le film. Elle dit « Mon fils avait un problème au genou, le médecin lui a prescrit le fentanyl, il est devenu accro. Il est passé du fentanyl à l'héroïne. Avec de l'héroïne, il a fait une surdose et il est mort tout seul dans les toilettes. » Et voilà, 500 000 personnes comme ça sont mortes. Et dont le film montre Nan entouré de ses camarades en train de s'organiser, de manifester dans les plus grands musées américains, le Guggenheim, etc. Car la famille Sackler, qui est propriétaire de l'entreprise, ou en tout cas actionnaire majeur, subventionne la plupart des grands musées d'art de par le monde, un peu comme si ce mécénat lui permettait de se faire pardonner ses méfaits. Et donc le film montre qu'il s'agit pour les militants de Payne de convaincre les responsables de ces musées de renoncer à l'argent sale de la famille Sackler. Le Louvre est d'ailleurs le premier musée qui s'y est engagé. Voilà. Alors, j'ai fait allusion aux photos prises par Nan Goldin, ces photos qu'on voit défiler, essentiellement des photos de gens que Nan a côtoyés au fil des années, des amis à elle pour la plupart, et qui confèrent au film ce qu'on pourrait appeler sa dimension galerie d'art. On a l'impression de déambuler dans une exposition consacré au travail de cette photographe. Ce sont des photos dures, fortes, qui convoquent le peuple de la nuit. En même temps, ces photos qui défilent constituent un véritable documentaire sur toute une population d'artistes, de critiques d'art, d'écrivains, de militants politiques qui vivent au cœur de New York et qui en même temps rejettent le système, vivent dans la marginalité. Ils sont à la fois dans New York et loin de New York, de certaines façons. Et ce va-et-vient, d'une dimension du film à une autre, hein, son côté documentaire, son côté de document d'art, son côté biographique, tous ces va-et-vient, créent au début du film une certaine confusion. On se dit, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Et petit à petit, on s'aperçoit que cette approche formelle se justifie. Ça fait penser, si vous voulez, formellement à ces poupées russes, vous savez, qu'on emboîte les unes dans les autres. Et je répète, ça se justifie. Et ce qui confère au film son unité, c'est la thématique, qui est très très riche. Alors bien sûr, il y a le rejet du système et d'une certaine forme d'économie, car le film est avant tout politique, il est très fortement politique. Il y a le thème de l'art, comme facteur de cohésion, comme quelque chose qui crée du lien. Et il y a surtout le thème de l'amour et de la mort, Eros et Thanatos. Alors Eros, c'est la pulsion de vie, et de fait, dans le film, on voit des gens qui s'envoient en l'air un peu partout et à tout moment. Et il y a cette pulsion de mort aussi, la vie que mènent ces gens, qui vivent dans la drogue, dans la promiscuité, qui ne s'épargnent pas, qui a la drogue, la promiscuité, l'alcool. Comme d'ailleurs l'indique le film, toute la beauté et le malheur et le sang versé. Voilà, car ce film dans son ensemble et l'œuvre de Nan Goldin en particulier est une célébration de l'amour sous toutes ses formes. Le film insiste beaucoup sous le caractère l'amour homosexuel, l'amour hétérosexuel, l'aspect physique de l'amour et l'aspect sentimental de l'amour, bien sûr. Donc, l'amour et la mort qui reviennent sans cesse dans ce film. Alors, cette mort, ce sont d'abord, je vous l'ai dit, les témoignages de ces personnes qui ont perdu un proche à cause des opioïdes et cette longue litanie d'amis ou de connaissances de Nan Golding qui sont morts du sida. Voilà. Donc, au bout du compte, on a un documentaire d'un très haut niveau, tant au niveau de la forme que du fond. C'est très profond, c'est très fort, il y a énormément de choses là-dedans, c'est très pensé. D'ailleurs, pour une fois, la critique ne s'y est pas trompée, qu'il a très bien accueilli, sans compter les prix que le film a obtenus dans les festivals. Et même les cahiers du cinéma ont aimé, c'est tout dire.
Même les cahiers du cinéma, bah on leur laisse le dernier mot. C'est à voir au Navire, à Aubenas, et aussi à séance spéciale, mercredi 29 mars à l'USAS, avec la Maison de l'Image, à 20h30, dans le cadre du printemps du documentaire. Et ce sera suivi d'une discussion avec Julie Noireau, qui est maîtresse de conférence en études photographiques à l'Université de Lyon 2. Donc, mercredi 29 à l'USAS, okay, à 20h30. Ce qui peut être très, très intéressant, ouais, d'avoir ce...
Ça vaut un débat, oui.
Ah, ouais, ouais. Ah bah, super. Donc, mercredi 29. Sinon, si vous ne pouvez pas attendre d'ici là, au Navire. Et ben on part encore ailleurs.
J'aimerais vous offrir un vœu.
Un vœu ?
Et elle regarde juste la télé.
Elle n'a pas dit un mot depuis le tremblement de terre. Kyoko, c'est comme si j'existais pas.
C'est votre devoir d'obtenir des résultats d'ici la semaine prochaine. Je me fais bien comprendre.
Si elle avait un amant, elle passerait pas son temps à regarder des tours s'effondrer.
Ouais.
Appelez-moi Frog.
Je ne reviendrai jamais.
Quoi, tu ferais pas un petit voyage, par exemple?
C'est quoi la chose la plus douloureuse qui t'est arrivée?
Vivre avec toi.
Je...
C'est comme vivre avec une bulle d'air.
Je me souviens pas.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Je suis venu pour sauver Tokyo de sa destruction!
C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Demain, il pourrait y avoir un autre tremblement de terre.
Tu peux faire n'importe quel vœu. Mais en fin de compte, on n'est jamais que soi-même. Vivre avec toi, c'est comme vivre avec une bulle d'air.
Saul aveugle, femme endormie de Pierre Foldès, musicien et cinéaste Pierre Foldès, d'après l'œuvre de Murakami. Alors on a parlé photo, on parle adaptation littéraire.
Littérature, oui. Donc effectivement, comme tu l'as souligné, c'est le réalisateur, c'est aussi le compositeur de la bande originale, qui est absolument magnifique dans le film. Alors là, on a entendu plutôt de la musique symphonique, mais la bande originale est déclinée dans différentes modes musicaux, et c'est une des, à mon sens, des grandes qualités du film. Donc on est dans une adaptation un peu particulière, puisque c'est un long métrage avec un début, un développement, une fin, mais qui est réalisé et composé à partir de 6 nouvelles de Murakami. Donc il y a quand même une soupe qui est faite ici, alors qui est plutôt réussie. Au centre du film, il y a le tremblement de terre, le fameux tsunami de Fukushima, donc qui a complètement marqué les Japonais, et pas que les Japonais, évidemment. Et on va trouver... comme toujours chez Murakami, pour ceux qui ont lu ses livres, plusieurs, presque des univers parallèles où sont plongés les personnages. Donc on va rencontrer un employé de banque transparent et solitaire, donc c'est ce qu'on entend dans le film annonce, vivre avec toi, c'est comme vivre avec une bulle d'air, qui est une très jolie formule pour celui qui le dit, pas forcément pour celui qui le reçoit. On va trouver une mystérieuse boîte boîte noire dont on ne saura jamais vraiment exactement ce que c'est. On va trouver un chat bleu, beaucoup de rêves étranges, et puis des personnages fantasmagoriques, donc une grenouille géante, une grenouille à taille humaine, et un ver gigantesque qui... peut-être voudrait détruire Tokyo. Donc là, on pense même à Dune, au vert des sables. Ouais. Il y a quelque chose de même graphiquement d'assez proche. Voilà. Alors, ça, c'est l'histoire, c'est le conte, mais en filigrane, on y trouve aussi un reflet de la société japonaise avec le monde du travail qui est relativement impitoyable. En tout cas, c'est ce qui est montré dans le film. La solitude et effectivement ce traumatisme, alors non seulement de Fukushima, mais des séismes en général qui frappent relativement le Japon. Le graphique, alors c'est un film d'animation, je sais pas si on l'a précisé, je pense pas, donc il faut le dire, voilà, c'est un film d'animation, ce qui ne veut pas dire que c'est un film pour enfants. Là, c'est très clairement un film pour adultes ou adolescents, mais en tout cas, c'est pas du tout un film jeune public, réalisé avec un graphisme souvent réaliste. Je dirais réaliste pour un sujet surréaliste, mais qui de temps en temps bouge. Il y a de très très beaux effets de transparence, parfois des camaïeux de couleurs qui arrivent comme ça. Alors, c'est tout ça est très bien. Moi, j'ai bien aimé le film, mais il me reste au bout du compte une sorte de sentiment un peu d'inachèvement. Alors, est-ce que c'est parce que c'est proche du manga et que les personnages parlent en français? Est-ce que c'est parce qu'il y a un peu trop de digressions dans le film qui part souvent un petit peu dans tous les sens? Est-ce que c'est parce que l'univers de Murakami, en fait, est très difficilement transposable ailleurs qu'en littérature? Je sais pas trop, c'est probablement un petit mix de toutes ces raisons-là qui font que pour moi, le film est très intéressant, on prend beaucoup de plaisir à le voir, mais il y a une petite, on n'est pas tout à fait en haut de l'échelle. Quoi.
Mais c'est à voir au navire d'Obona, et pour l'instant uniquement au navire. Saul aveugle, femme endormie, de Pierre Foldès. Littérature, toujours.
Emily, how did you write Wuthering Heights? Shall we begin?
Miss Emily Bronte.
You're off to become a wonderful teacher.
You know I don't like to meet new people.
What do you want to do?
Do you think I could be a writer? I have lots of stories.
Mr. Wakeman will be tutoring you in French.
He speaks with such poetry.
Any man can speak. What I want to know is, can he actually do?
Do what?
I have often struggled to understand you.
Your poetry.
Do not bring shame on this house, Emily.
Did you write these?
It's an ugly book.
There's something ungodly in your writing. I feel it when we're together.
Everyone's strange if you look at them for long enough.
Who are you? You wait and see.
Emily de Frances O'Connor avec Emma Mackey. Qu'on a pu voir dans Sex Education notamment. Frances O'Connor, qui est actrice avant tout et qui a d'ailleurs incarné, je l'ai vu, Emma Bovary dans une adaptation de 2000. Et donc, alors pour cette incursion dans la vie littéraire d'Emily Bronte, qu'en est-il ?
C'est à moi. Ouais. Alors déjà, je vais commencer par dire que je pense vraiment manquer d'objectivité parce que moi, tout cet univers-là, en tout cas, cette littérature anglaise, que ce soit Charlotte Brontë, que ce soit Jane Austen, que ce soit Emily Brontë, c'est quelque chose que j'adore et je pense que entre Orgueil et Préjugé, à la fois le livre et le film. En tout cas, l'adaptation qu'a faite Joe Wright il y a quelques années. Je pense que c'est vraiment les deux œuvres que j'aime regarder et relire et regarder et relire. Enfin, bon, c'est infernal. Donc, je ne suis absolument pas objective. Et donc, ce film, je l'ai énormément aimé parce que j'ai retrouvé toutes les sensations qu'on peut avoir quand on plonge dans ces héroïnes-là, dans ces femmes qui sont rebelles, qui sont exaltées, qui sont amoureuses, qui sont malheureuses. C'est d'un romantisme fort, c'est d'un romanesque incroyable. Et là, c'est un premier film qu'elle a fait, Frances O'Connor, et on est admirablement plongé dans ce romanesque-là, so british, et moi, voilà, ça c'est un truc, c'est vendu, quoi, ça y est, je suis posée devant mon écran, devant l'écran, et je me laisse porter pendant tout le film. Donc là, ça raconte la vie. Alors par contre, ce que je n'ai pas vérifié, si c'est précisément ça qui s'est passé. Hein. Je pense que c'est non, pas ça, non, du, pas coup, du coup, son histoire d'amour. Ou...
Ouais, c'est ça.
Alors, ça pose un peu problème.
C'est ce qu'on critique, c'est que c'est la critique que l'on peut faire, c'est que est-ce que. Puisqu'en fait, le film parle d'elle, parle de qui elle est, avant qu'elle écrive son chef-d'œuvre, Les Halles du Hurlevent, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de qui est ce personnage, dans quel univers elle évolue, la relation avec ses sœurs, et jusqu'à voilà, cette écriture. Et puis, malheureusement, très vite, elle va mourir de la tuberculose, hein, je crois. Et donc, au milieu de tout ça, il y a une forcément, parce que c'est cinématographique aussi, et parce que c'est romanesque, et parce que, voilà, il y a l'amour, et cet amour qui est un peu empêché, enfin, qui est là, qui va éclater quand même, mais qui va être concret, hein, dans lequel elle va se plonger éperdument. Mais il va y avoir un côté empêché, je t'aime plus. Enfin bon, bref, tout ça, qu'on sait très bien faire, évidemment, au cinéma, et qui porte aussi bien le spectateur, enfin, quand on est friand de ça. Et c'est là qu'on peut reprocher. Est-ce qu'elle avait besoin d'être amoureuse précisément pour arriver à écrire ce... Moi, je pense que oui, quand même, parce que... Quand on lit même Jane Eyre, ou quand on lit Orgueil et Préjugé, on est dans des histoires d'amour, on est dans des femmes qui aiment leur liberté, qui ont envie d'aimer comme elles le veulent aussi. Et c'est cet amour-là. Enfin, genre, pour l'écrire, il faut quelque part l'avoir, l'imaginer ou le vivre. Ou...
Oui, c'est ça.
Il faut quelque chose, il faut qu'il y ait.
En tout cas, elle ne l'a certainement pas vécu. Et c'est ça qui pose le mystère de la création.
Oui, aussi. Parce que tu as l'imagination et la création. Et puis se dire de... Enfin voilà, se parler d'un amour peut-être impossible, inaccessible, même si concrètement ça peut se passer avec certaines contraintes aussi. En tout cas, elles savent vraiment écrire l'amour, la relation, l'envie, le désir. Moi, ça... Je trouve ça toujours incroyablement beau, bien écrit et mystérieux aussi. Et donc, là, on est vraiment sur le parcours initiatique de cette jeune femme qui va l'amener à écrire Les Halles du Hurlevent. On est dans des paysages du Yorkshire qui sont à la fois hostiles et magnifiques parce qu'il y a des plans absolument superbes des lieux dans lesquels ils vivent. Et moi, je ne peux que le recommander si,
évidemment,
nous sommes fans, comme je le suis, enfin, si les spectatrices et spectateurs, je l'espère, sont fans de romanesque.
Mais oui, pour ressentir le désir, la fougue, la fièvre. Voilà.
C'est ça, pour vivre.
Pour vivre, vivons. Et allons voir Emily de Frances O'Connor cette semaine au Foyer de Rosières ou au Vivarais à Privas.
D'accord.
On continue. Je sais pas si j'ai mis la bande-annonce, mais on va peut-être la passer. Enfin, on va sauter la bande-annonce. Et on va continuer avec Le piège de Houda de Hani Abou Assad. Qui avait fait Paradise Now. C'est toi qui l'as vu, Didier ?
Oui. Je suis content d'ailleurs de l'avoir vu. Donc c'est un film palestinien, un peu différent des films qui arrivent de Palestine et qu'on a l'habitude de voir, qui raconte comment une jeune mère de famille, Rim, va être piégée par les services secrets israéliens pour devenir un agent qui peut fournir des renseignements. Alors on se dit comment une mère de famille sans histoire peut avoir des renseignements. Ben en fait si, parce que ce que les Israéliens appellent les terroristes, etc., sont connus un peu de tout le monde, les cachettes, etc., etc. Et on s'aperçoit que dans le film c'est une méthode très très courante, puisque la personne qui la piège est elle-même piégée, est obligée, donc c'est une sorte de cercle vicieux qui n'a pas de fin. Donc le film est un double récit, en fait. On a donc l'arrestation de Houda, donc qui est la personne piégeuse et piégée. Je vous raconterai pas comment, parce que ça fait partie quand même des surprises du film, qui va se faire arrêter, et donc on va assister à son interrogatoire qui va durer toute une nuit avec un résistant palestinien, on va dire comme ça, et qui va déboucher un peu sur une conversation presque philosophique sur qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que la trahison, comment on doit punir les gens, voilà, ce genre de choses. Et puis l'autre récit, c'est comment Rim, donc cette jeune femme, va s'apercevoir très très vite qu'en fait sa vie est en danger. Elle va être coincée entre les services secrets israéliens, les services secrets palestiniens, et elle va être obligée d'essayer de trouver une issue et d'essayer de trouver des alliés, ce qui va pas être très 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 évident. Donc c'est un film en fait politique, mais c'est aussi un film entre thriller et film d'espionnage, qui montre une certaine vision de la Palestine qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme je le disais au début, avec ses contradictions politiques, ses contradictions culturelles, et une finalité, en fait, c'est toujours les plus fragiles, en l'occurrence ici les femmes, puisque le moyen de piégeage, pour ceux qui iront voir le film, j'espère que vous irez, n'aurait pas du tout le même impact s'il était employé sur des hommes. Ça, c'est très très clair. Alors, les premières 15 minutes, je dirais, sont vraiment particulièrement réussies. Là, on est vraiment dans quelque chose de très très fort au niveau cinématographique, comment les choses sont amenées petit à petit, comment tout d'un coup on perd pied. C'est vraiment très très bien. Le film souffre ensuite, pour être pas négatif, mais pour être juste, je crois que le film souffre un peu de son manque de moyens évident, parfois c'est un peu bancal, des choses comme ça, mais en tout cas c'est vraiment réellement original et réellement intéressant, et ça porte un regard, encore une fois, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce pays et sur ses habitants. Ça se passe à Bethléem.
Une proposition de cinéma, encore et toujours, comme vous les défendez, des vraies propositions de cinéma. Le piège de Houda de Hani Abou Assad, qui est au navire cette semaine et aussi au regain du Taï. Un petit mot quand même sur Viaggio, merci, Gianfranco Rossi, Cathy, toi qui es... Qui a vu ce documentaire
Oui, alors c'est pas le pape qui m'a intéressé, c'est plus le travail de Gianfranco Rossi qu'on a. Bon, le dernier, le précédent était Notturno, et puis il y avait le Fuoco a Mare, Lampedusa, sur les migrants naufragés en Italie, qui était magnifique, hein, à la fois. Voilà, c'est vraiment un documentariste qui maîtrise particulièrement et le fond et la forme, parce que ce sont des films très documentaires qui sont cinématographiquement très, très beaux et maîtrisés. Bon, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est la vérité. Et là, j'étais un peu curieuse de voir ce qu'il en avait fait, parce que Wim Wenders avait réalisé un film sur le pape François il y a 3-4 ans. Donc... j'avais envie de voir ce que Gianfranco Rossi avait fait sur cet homme, hein, sur le même sujet. Bon, alors, je ne vais pas du tout empêcher les gens d'aller voir ce film. Moi, je me pose juste la question de l'intérêt, justement, vraiment, quand même, de l'avoir fait 3 ou 4 ans après Wim Wenders, qui revenait déjà sur les intentions du pape François, son lien avec Saint François d'Assise.
Sur ses combats,
on le voit vraiment, c'est un infatigable voyageur. Hein, c'est quelqu'un qui va un peu partout dans le monde prêcher la bonne parole. Mais qu'est-ce qu'on va attendre du pape? Quand même, on ne va pas attendre de lui qu'il dise des choses très, de mauvaises choses ou une mauvaise parole, puisque c'est le pape et qu'il se doit quand même d'encourager les peuples, les foules, de dire des vérités. Bon, voilà, ses positions par rapport à l'homosexualité ou par rapport à la contraception ou par rapport... Bon, voilà, il y a des choses dans lesquelles on l'oblige à aller et il faut qu'il se positionne. Donc, il se positionne. Mais finalement, pour moi, c'est un discours qui est quand même assez convenu et normal pour un homme d'Église. Voilà, c'est mon bémol par rapport à ce que le film raconte. Parce qu'après, effectivement, on le voit aller partout. Il ne se ménage pas. C'est un homme qui ne se ménage pas et qui quand même prend position. On ne peut pas lui reprocher. Mais bon, ok.
Okay.
Dont acte.
Bon,
voilà.
Pourquoi pas.
Mais on peut très bien y aller, qu'on soit pro pape François ou en tout cas militant ou pas.
Ouais, c'est ça. J'ai vu dans la critique finalement un film laïque. Alors j'avais noté que c'était un peu trop à gauche pour Le Figaro. C'était curieux et très humain pour la presse de gauche. voilà.
Ah c'était. C'est ça. Mais voilà, je pense que si on veut découvrir le cinéma de Gianfranco Rossi, il faut voir largement les précédents, parce que c'est beaucoup plus intéressant, je pense, cinématographiquement aussi. Ouais.
Ok. Il passe quand même cette semaine au Vivare de Privas. Et juste pour se faire plaisir, on va dire un mot avec un tout petit peu de bande-annonce de...
Tu as visto? ¿Qué has visto tú?
Yo no he visto nada.
Claro que no. ¿No sabes que no se pueden decir mentiras? Ana, hay mentiras que pueden hacer mucho daño. Vosotras sois todavía unas crías y no os dais cuenta de la gravedad de ciertas cosas.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
Cría cuervos. De Carlos Saura. Oui, tu voulais nous en dire encore un mot, Didier,
oui,
parce qu'il
forcément.
Ressort.
Ouais. Mais ça fait partie des films qui restent et qui vont rester. Et puis, bon, cette chanson absolument inoubliable, ouais, qui est encore un peu partout dans les mémoires, y compris même chez les plus jeunes. Donc, nous sommes en Espagne, quelques mois avant la mort de Franco. Mais ça, évidemment, quand le film est tourné, on ne le sait pas encore. Nous, on le sait maintenant. Mais... Et nous sommes dans une espèce de grande maison-prison où une petite fille de 9 ans, Anna, et ses deux sœurs sont presque, prisonnières de leur père, officier franquiste très répressif, alors qu'elles viennent de perdre leur mère et qu'elles ne s'en remettent pas, en particulier notre personnage principal, Anna, qui rôde comme une espèce de fantôme dans cette grande maison, ressasse ses souvenirs, rêve et écoute en boucle le fameux « Porqué Tevas » de Jeannette, quoi. Donc, sous cette histoire de deuil qui ne se fait pas, en creux, on trouve un portrait du franquisme, donc quelques mois avant la mort de Franco, donc quelques mois avant l'écroulement du franquisme, où sont abordés les fameux trois piliers du franquisme, l'armée, à travers ce père qui agit chez lui comme il agirait dans sa caserne, la bourgeoisie, alliée objective de la dictature, donc qui est décrite dans une grande maison, puisque quand même pendant cet été, pendant quelques jours, les filles vont être emmenées à la campagne, dans une grande maison, où effectivement n'ont pas le droit de sortir du parc, mais ce sera quand même une délivrance. Et là, il y a tout un tas de représentants de la grande bourgeoisie qui prônent évidemment l'ordre moral, mais sont d'une grande hypocrisie, pratiquent l'adultère, etc. Donc on voit bien l'antagonisme. Et puis la religion, puisque le film se termine sur la rentrée des classes dans un établissement religieux. Je termine juste sur parce que vous allez me le demander, pourquoi Kriaku Ervos, qui veut dire, en traduction textuelle, élève des corbeaux, donc qui a priori n'a rien à voir avec le film, sauf que ça rappelle un proverbe espagnol qui dit « élève des corbeaux et ils te crèveront les yeux », qui est une référence très claire au rapport d'Anna et de son père. Voilà, donc chef-d'œuvre, on voit pas ça tous les jours sur les écrans, il faut vraiment y aller. Quoi.
Un film magnifique sur l'enfance, sur la sensibilité de l'enfance.
Un pays sous la botte d'une dictature.
Exactement. Ouais.
75 alors,
1975. Oui. Et il est sorti d'ailleurs en Espagne et en France après la mort de Franco.
Et donc on peut revoir où ça, je ne sais plus.
Je crois que c'est à Priva,
au Vivarais de Priva. Ouais, il ressort. Juste un mot pour terminer sur l'agenda. Ce soir, enfin c'est même cet après-midi, le mystère Henri Pic qui est projeté à Tueil.
C'est dimanche. C'est dimanche après-midi à 16h30. Hein. C'est pas 16h30. Après-midi, je me suis dit,
je me suis d'accord.
Faut que je parte tout de suite alors. Ouais, non, mais c'est 16h30 dimanche.
Un livre, un film, en partenariat avec la médiathèque de Tueil, l'adaptation du roman de David Fuenquinos. Donc c'est dimanche. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce soir, à Tueil, c'est la grande magie.
Oui, complètement, dont on a parlé il n'y a pas longtemps.
Pas longtemps. Mm-hmm. Ce soir aussi, c'est à Auteuil, à Pas aveugle, qui était diffusé hier soir et qui est rediffusé là, donc Auteuil, avec aussi le réalisateur Christophe Cognet qui sera là. Et c'est un partenariat avec le Musée de la Résistance et de la Déportation d'Auteuil. Donc c'est ce soir, à Pas aveugle, dont on a parlé.
Très beau documentaire.
Très 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 beau documentaire qui revient sur les camps de...
Oui, sur des photos qui ont été prises clandestinement dans des camps, différents camps.
On adopte le point de vue de...
Il y a une analyse un peu de ces... Il part de la pellicule, en fait. Il y a eu plein de... En fait, tout un corpus de photos qui a été retrouvé. Et puis, après, c'est un peu l'analyse, qu'est-ce qu'on voit sur ces photos. Et après, c'est revenir sur place, dans les camps, essayer... donc, il les a agrandis en version sur des plaques, en fait. Et c'est retrouver l'emplacement de cette prise de vue, en fait.
À Pas aveugle, donc, de Christophe Cognet, et avec Christophe Cognet, ce soir à 20h30, à Auteuil. Justement, printemps documentaire, à noter, du coup, Toute la beauté et le sang versé, on en a parlé, qui sera diffusé mercredi 29, à 20h30. Et puis, pour terminer, dimanche à Ruyons, il y a un ciné-débat avec Mon Vieux, le film de Marjorie Desjardins. Mon Vieux avec l'association France Alzheimer, c'est dimanche à 17h30 à Ruyons. Voilà, c'est terminé.
Je peux juste dire un mot, j'ai vu dans les programmes qu'au Regain d'Auteuil, il y a une sorte de mini-festival François Ozon, où ils reprennent plusieurs films, dont Potiche, etc.
Exactement, oui. Eh ben oui.
Et ben voilà.
Ben merci. C'est dit. Merci. Potiche.
Et d'autres films, je ne sais plus lesquels exactement, mais il y a au moins trois.
Il n'y a pas une femme, mais il y a trois ou quatre films,
je crois. Ah, oui, ouais.
Okay. Mais merci beaucoup, Didier. Merci à vous toutes.
Merci.
Merci Sylvain. À la semaine prochaine pour encore plus de cinéma.